Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Vincent Paltera. Bonjour.
Salut.
Vincent, tu es co-porte-parole de la Confédération paysanne de la Drôme et tu es ici pour nous parler donc d'un sujet d'actualité. C'est celui de cet abattage systématique des bovins suite à cette dermatose nodulaire contagieuse et puis aussi peut-être de parler un peu du Mercosur aussi qui est un sujet brûlant actuellement.
Oui, on a plein de sujets d'actualité très brûlants en ce moment.
Oui, et on va peut-être les énumérer hein, et les détailler peut-être si tu le souhaites. Alors, hier se déroulait un rassemblement à l'entrée du parc des Expos de Valence. C'était à 14h avec des représentants de la Confédération paysanne et des agriculteurs et des paysans. Comment s'est déroulé ce rassemblement ?
Alors le rassemblement donc est parti du parking des Expos, mais ensuite on s'est rendu devant le local de la direction départementale de la protection des populations, anciennement service vétérinaire, qui donc est en charge des abattages quand il y a lieu. Faut savoir qu'en Drôme, on n'a pas eu de cas de dermatose nodulaire sur des bovins. Par contre, en Drôme, on a très fréquemment des cas de salmonelle détectée donc dans des poulaillers et qui entraîne elles aussi un abattage systématique et total du cheptel des poules. Sachant que c'est pas de la salmonelle donc qui a été détectée sur les poules ou même sur les œufs, c'est de la salmonelle qui peut être détectée jusque dans le fumier. Donc comme on est sur une bactérie très courante, nous on trouve que ça participe en fait de cette logique d'éradication absurde que les services sanitaires français ont mis en place depuis maintenant plusieurs dizaines d'années.
Depuis plusieurs années, on s'est aussi rendu compte que ce sont parfois les concentrations d'élevage qui sont propices à ces bizoties. Est-ce que justement c'est cette fragilisation des bêtes?
Bah, bien sûr, hein, plus un élevage est concentré et plus les bêtes seront fragiles d'un point de vue de la santé. C'est pas naturel, même si le mot ne veut pas dire grand-chose, de tenir 20 000 poulets enfermés avec un tiers de mètre carré, même pas pour chacun. C'est pas naturel pour des vaches de jamais sortir de leur stabulation. Et tout ça a des conséquences sanitaires qui, bien souvent, en plus, sont compensées par le déversement massif d'antibiotiques à la fois dans l'alimentation et dans l'environnement, dont on commence à payer le prix aujourd'hui avec les antibiorésistances. Notamment, certaines personnes ont sûrement déjà entendu parler de quelqu'un qui avait pu attraper un staphylocoque doré résistant ou des bactéries Escherichia coli qui sont à l'origine de troubles intestinaux très très graves. Donc les politiques sanitaires, elles sont calquées sur le modèle industriel, elles sont faites par et pour les industriels avec la complicité du gouvernement.
Tu peux peut-être notifier cette industrie que prône la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui sont le fer de lance hein, de cette industrie, et vous, sur le côté, avec cette confédération paysanne, vous êtes plutôt des porte-parole de la paysannerie et de la petite exploitation.
Oui, ben la Confédération paysanne, effectivement, contrairement à la FNSEA, elle pense qu'il vaut mieux 4 petites fermes qu'une grosse. C'est beaucoup plus vertueux d'un point de vue social déjà, parce que ça maintient des gens dans les territoires. C'est beaucoup plus vertueux d'un point de vue environnemental, parce qu'on le voit bien en fait. Pour qu'une seule personne puisse cultiver des centaines d'hectares, ça demande un recours massif au pétrole, massif aux pesticides et à tout ce qui fait que l'agriculture aujourd'hui fonctionne de manière assez artificielle. Donc le fait d'avoir des exploitations à taille humaine, C'est quelque chose qui ne peut que apporter du bien à la société dans son entier, ne serait-ce qu'aussi pour la qualité de l'alimentation qu'on pourra fournir.
Par rapport à cette parole prônée par la Confédération paysanne, est-ce qu'il y a un écho au niveau du public, de la population, sur cet aspect d'élevage ? Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a une préférence de la population ou une indifférence sur ces modes d'exploitation ?
Sur le principe, je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec nous, ça c'est sûr. Après, concrètement, il y a le prix de la nourriture qui, évidemment, va faire que beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se payer une nourriture saine. Pourquoi ils n'ont pas les moyens de se payer une nourriture saine ? C'est parce que des choix ont été faits. L'agriculture, elle est massivement subventionnée, donc en vérité, le prix payé dans l'assiette ou au supermarché, n'est pas le prix réel de notre alimentation. Notre alimentation, on va la payer une première fois quand on va l'acheter dans notre magasin, mais on va la payer ensuite parce que tout ça est largement subventionné, et ces subventions-là vont principalement aux grosses exploitations, hein, c'est 80% des subventions qui vont à 20% des plus grosses exploitations. On va la payer une troisième fois parce que le coût environnemental de la pollution, de l'environnement, des rivières, de l'eau, il est pris en charge par la communauté. Quand il faut dépolluer de l'eau, c'est pas ceux qui l'ont polluée la plupart du temps qui mettent la main au porte-monnaie pour la dépolluer. On va la payer une quatrième fois aussi parce que ça cause des véritables soucis de santé avec des aliments de mauvaise qualité au départ qui ensuite sont lourdement transformés par l'industrie avec des additifs, etc. Ça pose des problèmes réels de santé, que ce soit au niveau des problèmes d'obésité, de diabète ou même les problèmes de cancer liés aux différents pesticides dont on commence à avoir suffisamment de recul aujourd'hui pour comprendre que l'épidémie de cancer que subissent les pays occidentaux aujourd'hui, elle est liée à l'environnement chimique dans lequel on baigne.
Nous revenons un peu sur ce sujet de la dermatose nodulaire contagieuse. On peut peut-être expliquer ce qu'elle est et ce qu'elle produit sur l'animal. Est-ce que tu as toi-même vu des animaux atteints ?
Alors non, fort heureusement, j'ai pas eu l'occasion de voir des animaux atteints. Maintenant, c'est une maladie donc subtropicale à l'origine. Et on peut voir que le changement climatique n'est pas pour rien dans la propagation de ce genre de maladie, puisqu'elle est propagée par des insectes principalement.
La mouche charbonneuse est mise en avant.
La mouche des étapes charbonneuses, plusieurs insectes en fait, suceurs de sang, qui vont pouvoir transmettre la maladie. Elle peut aussi se transmettre directement par contact des sécrétions des bovins. La problématique de cette maladie, c'est qu'elle est très contagieuse, avec des durées d'incubation un peu longues. Mais par contre, ce qu'il faut dire déjà en premier, c'est qu'elle n'est absolument pas contagieuse vis-à-vis des humains. Et la deuxième chose, c'est qu'elle n'est pas d'une grande mortalité pour les bovins. Le gros problème dans cette crise, c'est les décisions prises par le gouvernement, parce que des vaccins existent et il aurait pu y avoir une campagne de vaccination lancée déjà il y a des mois. Sur l'ensemble des bovins français.
Il y avait déjà des études qui établissaient une propagation probable sur l'Europe à partir de 2016. Donc, il y avait peut-être aussi à un moment des décisions à prendre à ce moment-là, ou de prévention du moins.
Oui, la maladie a, il me semble, d'abord débarqué dans les Balkans. Et on sait bien que ce genre de maladie, à un moment ou à un autre, finit par se propager. Donc le fait d'avoir un vaccin, déjà, c'est très bien, hein, contre cette maladie. Mais le problème, c'est que le gouvernement a refusé la vaccination. Parce qu'en fait, il y a des enjeux vis-à-vis de l'export de viande et que les 20% d'éleveurs français, donc de viande bovine, qui ne pourraient plus exporter si leurs bêtes sont vaccinées, ont fait pression de manière à ce que la situation en arrive là où elle est. Ce qui, je pense qu'ils vont peut-être aussi eux-mêmes s'en mordre les doigts à un moment, puisque là, on va être quand même obligé de vacciner. Le gouvernement a enfin décidé de vacciner le quart sud-ouest de la France, alors que nous, on pense que ça devrait se généraliser.
Pourquoi ce refus d'élevage vacciné ? Quelles sont les problématiques d'une vaccination pour l'exportation ?
Moi, je ne suis pas vétérinaire, donc je ne sais pas pourquoi les règles ont été mises en place telles quelles. J'imagine que c'est des mesures de précaution qu'on peut comprendre, hein. Aussi pour éviter la propagation de la maladie, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on n'a plus de possibilité d'exporter la viande hors Europe. À partir du moment où, même en Europe, je crois, à partir du moment où les bêtes sont vaccinées, et ce, pendant plusieurs mois.
Alors, il y a aussi ce mouvement contre le Mercosur, justement, qui touche cet aspect de l'importation de viande d'Amérique du Sud, de bœuf, notamment. Il y a une situation qui s'entrecroise avec, justement, cette problématique des dermatoses.
Oui, c'est assez ironique hein, de voir qu'au moment où on va signer l'accord Mercosur qui va libéraliser l'importation de viande bovine, entre autres, hein, il y a plein d'autres choses qui sont incluses dans cet accord, la libéralisation de l'importation de viande d'Amérique du Sud, qui sont élevées dans des conditions beaucoup moins strictes d'un point de vue sanitaire, notamment avec des procédés de traitement de la viande après abattage, avec des problématiques de recours aux OGM massifs, avec une logique très très industrielle vis-à-vis de la viande, ce qui leur permet en fait effectivement d'avoir des prix éminemment concurrentiels malgré le fait que on doit payer des cargos pour faire venir cette viande de l'autre bout du monde. Donc nous, on est effectivement entièrement opposés à la libéralisation de l'alimentation à un niveau mondial. C'est complètement absurde. Tous les aliments qu'on peut produire en France, du moment qu'on peut en produire la quantité voulue pour nourrir la population, on n'a pas besoin d'en importer. C'est absolument absurde d'un point de vue écologique, d'un point de vue sanitaire, parce que quel que soit l'endroit d'où on va importer notre alimentation, les normes sanitaires et les moyens de contrôle sont toujours inférieurs à ceux de l'Europe. Donc c'est vraiment une question d'argent, c'est vraiment pour continuer d'enrichir les plus riches, ceux qui ont dévoyé l'agriculture française pour la transformer en pompe à fric.
Justement, cette viande qui serait importée retrouverait sur quel réseau de distribution ?
Le problème, c'est que souvent, ces viandes à bas coût, on ne va pas les retrouver chez notre boucher en forme de steak ou de roast beef. Hein. C'est plutôt des viandes qui vont entrer dans la composition de plats industriels. Donc, les raviolis, la farce des raviolis, la viande hachée dans les lasagnes, etc., etc. Tout ce qui est, un moyen en fait, de faire passer cette viande avec tout un tas d'additifs et du sel et des épices. Même si elle est de mauvaise qualité, donc les gens qui mangent ça ne s'aperçoivent pas de la qualité de la viande vu que c'est dilué par les process industriels de fabrication.
D'autant qu'on pouvait même trouver du cheval à la place du bœuf, il y a ce scandale il y a quelques années de ça. Est-ce que justement des barrières se sont mises en place pour éviter ce renouvellement de situation à vos yeux ?
Des barrières, non. Je pense qu'en fait, c'est une logique générale, en fait, qui est basée sur un profit maximum, en dépit du bien-être animal, en dépit de la survie des paysans. Donc, à partir du moment où on gardera un gouvernement extrémiste, ultralibéral, qui a pour religion le libre-échange, je pense que ça va être difficile de faire autre chose que sauver les meubles.
L'année dernière, il y avait eu aussi cette épidémie au niveau des ovins. J'avais reçu des éleveurs de la Drôme pour ce cas. Est-ce que, quelle est la situation aujourd'hui de cette problématique ?
Alors, cette année, donc, il y a eu un gros effort justement de vaccination qui a quand même porté ses fruits. Et il n'y a pas eu de flambée de l'épidémie, notamment en Drôme. Donc on est plutôt content, rassuré au niveau des éleveurs ovins. Mais c'est bien d'en parler parce que donc c'est deux maladies très similaires, la dermatose nodulaire des bovins et la fièvre catarrhale ovine. En fait, sur les moutons, ça va provoquer des éruptions aussi, plutôt dans la bouche et la gorge. Et on a une mortalité beaucoup plus importante sur le cheptel ovin. Donc ça a été très dur pour beaucoup d'éleveurs l'année dernière. Mais comparé à la dermatose des bovins, on a au maximum, en cas de forte infection, à peu près 10% du troupeau qui va mourir. Alors qu'on était sur des taux beaucoup plus importants chez les brebis. Donc on peut voir que, étant donné qu'il n'y a pas d'enjeu financier à l'export, le gouvernement a fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse vacciner, avec du retard, hein, inévitablement, comme d'habitude. Mais on a pu vacciner les ovins, et là, le refus de vacciner les bovins, il est clairement lié à les intérêts financiers du marché de l'export.
Je reviens un peu sur cet épisode donc, d'abattage systématique, hein, de troupeaux. Au niveau d'une exploitation, un fermier, sa famille, quel est l'impact économique et moral aussi sur cette situation ?
Bah, comme on peut l'imaginer, c'est vraiment catastrophique, quoi. C'est quasiment une vie de travail qui disparaît là, comme ça, sur...
De transmission parfois même aussi.
De transmission, ça peut aussi hypothéquer la possibilité de transmettre sa ferme, parce que c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Les éleveurs, en fait, déjà, ils ont une sélection de leurs bêtes. Ils vont choisir les bêtes qui sont dociles, les bêtes qui prennent bien l'alimentation, etc. Il y a une culture aussi, les bêtes qui sortent, qui connaissent leur pâturage, qui ont leurs habitudes. Donc repartir de zéro pour un éleveur, d'autant plus que je ne sais pas exactement les montants d'indemnisation qui sont prévus, mais la plupart du temps, on n'est jamais dans les clous. Quand on voit par exemple que quand ils imposent l'abattage des volailles, il y a zéro indemnisation pour les éleveurs. J'imagine que pour les bovins, il doit y en avoir un peu, mais ça ne doit pas suffire. Donc, c'est vraiment dramatique. Et on peut comprendre qu'il y ait un refus, déjà a priori. Et on peut comprendre que la brutalité avec laquelle le gouvernement impose ces abattages, en envoyant tout de suite des centaines de gendarmes, des blindés. On a vu des images abominables où ils ont une espèce de grue avec une griffe qui sert dans le BTP pour attraper les vaches. Mais c'est quoi ? C'est quoi en fait ces façons de faire ? Je veux dire, vous êtes en train de détruire la vie de quelqu'un. Si réellement vous êtes convaincu que sanitairement c'est nécessaire, vous allez prendre 1, 2, 3, 5, 10 jours pour essayer de négocier et faire que ça se passe de manière civilisée, quoi. Pas avec l'envoi de la cavalerie et à taper sur tout le monde comme ils ont l'habitude de faire, et à battre les vaches de la manière la plus horrible qu'on puisse trouver, dans la panique, dans la précipitation. Non, c'est vraiment marcher sur la tête, quoi.
Vincent, tu produis des œufs avec des poules. Quelle est la situation justement sur l'élevage de volailles en France, puisqu'il y a eu aussi ces mises en quarantaine, hein, d'élevage, surtout certaines régions de la France ou sur l'ensemble du territoire national. Et qu'en est-il aujourd'hui de cette situation ?
Alors aujourd'hui, on n'a pas de grosse alerte sur la grippe aviaire en France. Faut savoir qu'effectivement, la grippe aviaire, c'est encore un bon exemple des politiques sanitaires qui vont accuser les oiseaux sauvages, etc. Alors bien sûr, le virus circule chez les oiseaux sauvages, mais quand on a un petit peu de recul et qu'on a mené l'enquête, on s'aperçoit que la plupart des contaminations ne sont pas le fait de contacts entre animaux d'élevage et animaux sauvages, mais bien plutôt le fait que beaucoup d'animaux sont transportés, notamment transportés à travers l'Europe. Il y a des canetons, par exemple, qui sont transportés vers le sud-ouest, vers les élevages intensifs, depuis la Roumanie, des choses comme ça, et les transports d'aliments, etc. Donc, quand on est dans un élevage paysan, il y a beaucoup moins ce genre de choses et il y a beaucoup moins de véritables dangers de contagion. Et en plus de ça, souvent on est face à des maladies où la mortalité est abominable en élevage intensif, parce que la promiscuité, parce que le mauvais état de santé des animaux, mais qui est beaucoup plus acceptable dans des élevages plein air, avec des bêtes qui sont déjà habituées à vivre à la rude, hein, mais c'est ça dont elles ont besoin, hein, c'est une vraie vie de bête, quoi, dans un parc, avec des arbres, en grattant la terre, hein, c'est ça des volailles.
Cette propagation, hein, sur toutes ces espèces animales, est-ce que c'est récent ou alors est-ce que dans l'histoire il y a eu des périodes similaires ?
Bah, disons qu'on a toujours vécu des épizooties à un moment ou à un autre, hein, depuis qu'on élève des animaux, depuis qu'on cultive des plantes. Inévitablement, les maladies apparaissent, les maladies disparaissent plus ou moins. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le commerce international, c'est un vecteur ultra puissant qui a démultiplié les possibilités en fait de contagion. Notamment, on peut le voir avec l'introduction de plusieurs maladies des pays subtropicaux qui auraient eu beaucoup de mal à être transmises via les transports maritimes auparavant. Mais maintenant, avec la masse de bateaux qui transitent d'un continent à l'autre, et aussi avec les avions qui peuvent ramener des insectes, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies qui se diffusent très rapidement. Ouais.
Cette problématique qui existe en France, existe-t-elle aussi dans d'autres pays d'Europe ?
Ouais, il y a différentes manières d'aborder le sujet. Il faut savoir quand même que sur la dermatose, on est face à des réglementations européennes, hein, pour l'abattage. Donc il y a des pays hors Europe qui pratiquent des abattages ciblés, pas des abattages complets. Et nous, on pense que la dermatose devrait être classée au même niveau, par exemple, que la fièvre catarrhale, donc, qui touche les moutons, où il n'y a pas d'obligation d'abattage, parce qu'elle n'est pas dangereuse pour l'homme, parce que la mortalité n'est pas si importante que ça sur les troupeaux, et parce que c'est en fait la manière de réussir à se débarrasser, même si se débarrasser, ce n'est pas éradiquer, du problème de ces maladies-là. Si on abat tout le troupeau, toutes les bêtes naturellement résistantes à cette maladie, eh ben, ne pourront pas se reproduire et du coup, on s'enlève la possibilité d'avoir des bêtes immunisées naturellement à cette maladie. Voilà la grande problématique aussi de l'abattage systématique.
Je reviens un peu sur cet aspect de contagion, hein, de la dermatose. J'ai entendu sur France Culture, il y a deux matins de ça, où une représentante du gouvernement était étonné de cette réaction, hein, des éleveurs, sachant que jusqu'à présent, semble-t-il, 3000 bêtes ont été abattues, alors que 11 000 le sont au quotidien pour la production de viande. Est-ce qu'il y a aussi une déconnexion totale d'empathie de ces dirigeants vis-à-vis d'une exploitation d'un agriculteur, d'un paysan ?
Ben effectivement, on voit que ces gens-là, ils ont que la politique du chiffre en tête, ça représente rien pour eux. Ah oui, ben il y en a 11 000 là, 6 000 de l'autre. Ah ben oui, ben c'est pareil, hein, pourquoi vous chouignez, quoi. Franchement, c'est d'un mépris, mais à vomir, quoi. En fait, effectivement, on mange beaucoup de viande en France, donc on abat des bovins, ça c'est inévitable, et peut-être que quotidiennement, on en abat 11 000, comme il dit. Mais maintenant, sur une ferme, on fait partir sur un troupeau d'une soixantaine de bovins viande. On va en faire partir une dizaine, douzaine par an, donc un par mois, un ou deux par mois. Ce n'est pas l'abattage total de son cheptel à chaque fois qu'on veut gagner le pactole. C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est de la démagogie, en fait, de présenter les choses comme ça.
Face à tous ces pisotis, quel est votre travail, votre réflexion sur ce sujet ? Est-ce que vous œuvrez effectivement pour un abattage ciblé ou une vaccination d'emblée ? Est-ce qu'il y a d'autres pistes ?
Bien sûr. En fait, bon, dans toute situation de crise, il faudrait pouvoir trouver des solutions de sortie vers le haut, hein, pour parler comme les autres, là. Et ce qu'on a proposé, par exemple, sur les derniers élevages, et sur les précédents d'ailleurs aussi, c'est de mettre en place des protocoles expérimentaux. On isole la ferme, on se débrouille pour qu'il n'y ait pas de contagion vis-à-vis de l'extérieur. Et on abat les bêtes qui sont clairement porteuses, malades. Et on regarde comment la maladie évolue au sein du troupeau. Ce qui nous permet notamment de vérifier donc la mortalité de la maladie et puis, comme je disais tout à l'heure, surtout de sélectionner les bêtes qui vont être infectées, mais qui n'ont pas de symptômes, donc qui en fait ne sont pas malades, comme certaines personnes pouvaient avoir le Covid, le transmettre, mais en n'ayant aucun ou quasi aucun symptôme. Et c'est plutôt ça qu'on va rechercher, c'est que la maladie devienne tellement bénigne qu'on ne s'en aperçoive même plus.
D'ailleurs, je crois que c'est les Balkans où il y a eu des cas de contagion. Ils ont procédé justement à des abattages ciblés, une vaccination. Est-ce que vous vous renseignez aussi auprès de ces épisodes de manière à en tirer un enseignement et des propositions ?
Alors moi, je ne suis quand même pas expert de la question. C'est-à-dire que je ne suis pas éleveur bovin. Et j'imagine que la situation effectivement a été gérée dans les Balkans. Je ne sais pas exactement. En fait, je ne peux pas te répondre.
Mais est-ce que vous êtes en recherche d'informations justement à cette situation ?
Bien sûr. Il y a des groupes de travail sur les problématiques sanitaires, donc à la Confédération paysanne nationale. Et on a même en fait déjà travaillé avec l'État, notamment pour faire évoluer les réglementations en matière d'élevage plein air sur les volailles. Il paraît que c'est un scoop que la préfète donc nous a dit hier. Il paraîtrait que la réglementation sur la salmonelle, qui est absurde, vu qu'en fait ça fait maintenant 20 ans qu'ils abattent systématiquement les volailles alors que le taux de contamination reste absolument le même, il paraît qu'ils vont faire évoluer la réglementation, j'espère en bien, donc on attend de voir.
Justement, cette réglementation mise à mal par ces réactions du monde paysan, comment est-elle établie ? Est-ce qu'il y a aussi une prise en compte de votre avis sur ces modes de traitement ?
La plupart du temps, non, parce qu'il faut savoir que les différentes institutions du monde agricole sont complètement verrouillées par le syndicat majoritaire, la FNSEA. Et donc quand l'État cherche un interlocuteur, il se retrouve systématiquement face à des gros industriels de l'agrobusiness. Donc c'est souvent des gens qui sont à la fois propriétaires de très grosses exploitations agricoles, donc autant dire des gens qui ne mettent jamais les pieds sur leur ferme ou une fois de temps en temps pour la photo. C'est des gens qui ont aussi des parts dans des sociétés d'agrobusiness des sociétés de comme le Sieur ou des gros huiliers, des industries de transformation de la nourriture. Et puis, c'est des gens qui siègent dans tout un tas de conseils d'administration. Donc, autant dire que pour eux, les intérêts du petit paysan, ça passe, mais alors en dernier. Et d'ailleurs, c'est depuis toujours que ces gens-là mènent les gouvernements français par le bout du nez, pour mettre en place cette politique du profit à tout prix qui écrase les paysans français depuis 70 ans maintenant, qui impose une nourriture de mauvaise qualité, alors en abondance, hein, évidemment, mais avec tous les problèmes, donc comme je pouvais le dire, des problèmes de santé, des problèmes écologiques et des problèmes sociaux.
Aussi. Et de pollution aussi.
Oui, des problèmes de pollution. Donc, faut voir que, apparemment, on compterait à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à notre système alimentaire dans les pays européens et occidentaux en général. Et le refus de changer ce système-là, bah, c'est le refus de prendre réellement les choses en main en matière de changement climatique.
Il y a aussi donc, des activités de vigne hein, dont tu t'occupes. Et quelle est la situation de vigne justement aujourd'hui? On peut constater une baisse de consommation hein, des vins, en partie liée aussi avec la sécheresse qui vient compacter, impacter aussi cette exploitation. Est-ce que toi, tu ressens un changement justement de production lié à ces conditions climatiques?
Alors bien sûr, hein, il y a les conditions climatiques, ça c'est très clair, ça a été très clair pour moi aussi, alors cette année moins, mais les deux années précédentes. Mais on a un problème systémique hein, vis-à-vis du vin en France. On a une surproduction, donc liée effectivement à la baisse de consommation, à des problèmes d'exportation, et puis au fait que on a tendance à vouloir spécialiser à outrance les fermes. Et c'est vrai que en matière de vin, en matière des fois de lavande aussi, il y a beaucoup de productions comme ça qui sont en dents de scie sur un cycle d'une quinzaine, vingtaine d'années. Et ça fait beaucoup de mal, hein, surtout pour ceux qui tombent dans le creux du cycle, qui viennent de s'installer, qui ont beaucoup investi et qui se retrouvent en fait avec l'impossibilité de payer leurs emprunts, puisque par exemple actuellement à Die, je crois que c'est plus un secret pour personne, la cave de Die Jayens va très très mal, elle a beaucoup de mal à payer ses coopérants, donc on a une vraie baisse d'activité, on a des gens qui arrêtent, on a des gens qui arrachent la vigne, et le contre-coup on va le sentir dans les mois, dans les années à venir, de cet effondrement de tout un pan de l'économie d'Ivoise.
Justement, cette cessation d'activité de la vigne, de la viticulture, est-ce qu'il y a une transition qui s'opère actuellement pour trouver un autre type d'agriculture?
Je crois que chacun se débrouille comme il peut. Parce qu'au niveau de l'État, il y a, à part une petite subvention de 4000 euros à l'hectare pour l'arrachage, qui est encore en négociation, hein, elle n'est pas forcément reconduite. Donc il n'y a pas de mesures qui ont été mises en place. Et il faut savoir que bon, la vigne, traditionnellement, était plantée quand même dans les terrains les plus ingrats. Ceux qui sont en pente, ceux qui n'ont pas trop d'accès à l'eau, pas beaucoup de terre. Donc il y a des chances que ces terrains-là ne soient pas revalorisés tout de suite parce que difficile à travailler, tout simplement. Donc c'est une réflexion qu'il faudrait avoir, et notamment une réflexion qu'il faudrait avoir un petit peu au niveau local, en établissant un petit peu les besoins qu'on peut avoir localement, et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces terrains-là. Est-ce que c'est des fruitiers? Est-ce que c'est de l'élevage qu'on va devoir mettre dessus? Voilà, c'est des choses à réfléchir et à mettre en place aussi, par exemple, au niveau d'une communauté de communes ou d'un bassin versant.
Et puis, il y a aussi les exploitations de plantes aromatiques, toi-même, on exploite. Il y a cette représentation aussi au sein de la Confédération paysanne de ce type d'exploitation. Est-ce qu'il y a... pareil, hein, on peut parler de terre ingrate hein, pour ces plantes. Est-ce qu'il y a des similarités avec la vigne?
Alors, on n'est pas dans une crise lourde sur l'ensemble des plantes aromatiques en ce moment. Par contre, on a une crise de la lavande, hein, ça c'est indéniable, ça fait plusieurs années que les prix sont très très bas. Donc c'est toujours pareil, les prix très hauts incitent les gens à planter beaucoup de lavande. Donc inévitablement, ça fait baisser les prix. Et ben, ensuite, la durée de vie d'une lavande étant de 12 à 15 ans, souvent les courbes de plantation et les courbes de prix se croisent. Donc c'est un drôle de petit jeu avec la lavande. Mais pour la plante aromatique dans son ensemble, je pense qu'en Drôme, on est encore assez diversifié. Il y a beaucoup de lavande, mais il y a aussi d'autres plantes aromatiques. Et c'est pareil à la Confédération Paysanne. Nous, on a plutôt tendance à aller vers de la production à petite échelle, avec de la vente directe, même si on soutient les producteurs qui se retrouvent très souvent un peu petits face à un grossiste qui va imposer des prix et qui va faire qu'ils vont à peine arriver à vivre de leur travail, quoi. Notamment au niveau de la lavande en ce moment, je pense que c'est difficile pour certains.
Et puis, il y a ce site internet hein, pour connaître un peu vos actions, vos démarches. Le site donc, de la Confédération Paysanne de la Drôme, j'indiquerai le lien sur le texte de présentation de l'émission. Que dire de plus pour les prochains temps vis-à-vis de toutes ces crises?
Que dire pour l'avenir? Je pense que, justement, les paysans, ils ont quand même de la ressource. Maintenant, on pourrait quand même dire qu'il y a un certain acharnement à faire disparaître la petite agriculture française. On a un vrai enjeu, c'est la transmission et l'installation. Parce que rien qu'en Drôme, et c'est le cas partout en France, hein, on a 5 000 exploitants agricoles. Sur ces 5 000 exploitants agricoles, il y en a plus de 2 000, si mes souvenirs sont bons, qui ont entre 55 et plus, donc qui vont partir à la retraite très bientôt. Et il faudrait savoir que c'est à l'année, environ 200 à 300 porteurs de projets qui s'inscrivent et 80 qui s'installent, entre 80 et 90 qui s'installent. Donc le renouvellement, il est de 1 pour 3 au mieux. Et les courbes démographiques vont faire que, en fait, les objectifs de se débarrasser de tous ces paysans encombrants et de garder, en fait, quelques petites cultures d'excellence pour la cantine du Sénat et la table de Bernard Arnault, et à côté une nourriture innommable produite industriellement, ça c'est la politique néolibérale, et c'est la politique qu'on combat à l'échelle de la Confédération Paysanne, et qu'on combat souvent même avec succès, puisqu'on arrive quand même à installer des gens. Alors c'est pas nous qui les installons, hein, c'est eux qui s'installent, mais on arrive à aider des gens à s'installer, on arrive à montrer qu'une autre agriculture est possible.
Oui, et par rapport à cette affirmation de 300 projets de reprise et finalement 80 installations au final, quels sont les freins qui réduisent justement ces reprises? Est-ce que le système bancaire est de la partie?
Alors le système bancaire bien sûr, mais en premier, pour avoir une ferme, il faut avoir des terres. Donc la première problématique, c'est trouver du terrain. Et ce qui est très difficile en Drôme, parce que non seulement il y a la concurrence entre paysans, hein, avec les subventions qui sont données à l'hectare, donc plus on a de surface et plus on gagne des sous, ce qui fait que ça aide pas à ce que des jeunes qui veulent s'installer, ou moins jeunes hein, d'ailleurs, puissent trouver du terrain. Et puis, on a une deuxième problématique vis-à-vis du terrain, c'est que c'est devenu the place to be, comme on dit maintenant, la Drôme. Donc,
ça veut dire quoi, place to be ?
Ça veut dire que c'est un endroit à la mode et que beaucoup de gens cherchent à soit s'installer, soit avoir une résidence secondaire dans la Drôme. Donc, on voit beaucoup de fermes partir pour soit des résidences secondaires, soit des gens qui ne vont plus être dans une activité agricole et donc qui en fait rachètent un potentiel outil de travail pour un paysan parce qu'il faut savoir qu'avoir des terrains mais pas de logement juste à côté, pour beaucoup d'agriculteurs, ça rend le travail difficile, voire impossible. Et on a une deuxième problématique, je pense aussi, qui est très très importante en Drôme, c'est qu'on a pas mal de projets de maraîchage. Et que ces projets de maraîchage, ils ont impérativement besoin d'eau. Et qu'actuellement, la possibilité d'obtenir des droits de pompage, de puisage, ou même un accès au réseau d'irrigation, est complètement verrouillé par le syndicat majoritaire, qui est à la fois jugé parti en la matière. Donc ce qu'on propose à la Confédération Paysanne, c'est à chaque fois qu'il y a un départ à la retraite, avec quelqu'un qui a des droits d'eau, qu'on puisse mettre entre 10 et 20% de ces droits d'eau en réserve pour des gens qui voudraient s'installer, qui n'est pas encore faite.
Et quel est le soutien de la Chambre d'agriculture vis-à-vis du monde paysan, de la Drôme notamment ?
La Chambre d'agriculture gesticule beaucoup, fait de la communication. Après, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans la Chambre d'agriculture, il y a aussi des techniciens compétents qui sont donc souvent en ressources. Maintenant, des fois, ça coûte un peu cher, etc. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, la FNSEA va accuser la Confédération Paysanne d'être un syndicat politique, etc. Mais en vérité, à chaque fois qu'ils ont une chambre d'agriculture, ils s'en servent pour mettre en place leur politique et ils s'en servent de manière assez écrasante. Parce que la représentation au sein de la chambre d'agriculture, elle est vraiment pas démocratique. En vérité, la Confédération Paysanne l'a fait à une trentaine de pourcents de score aux élections. Et on se retrouve en chambre d'agriculture avec sur 18 sièges deux représentants, quoi.
À vos yeux, au niveau de la Confédération, quelle vision avez-vous sur le traitement médiatique, que ce soit national, peut-être même régional, de cette situation ?
C'est souvent assez caricatural, hein, la manière dont nos positions sont présentées. On a très peu la parole directement dans les médias, et ça c'est quand même très préjudiciable, parce qu'on n'est pas juste contre par plaisir. On a réfléchi à la question, on a des propositions, et il y a un vrai débat à mener sur les politiques sanitaires en France, et clairement, l'État fait tout ce qu'il peut pour que les médias ne puissent pas ouvrir ce débat sur les politiques sanitaires qui sont menées.
Voilà, donc beaucoup d'actions, perspectives encore, et d'angoisse peut-être pour le monde paysan. Je te remercie, Vincent Altera, d'être venu sur RDVoix pour nous parler de cette situation du monde agricole et paysan. Et je te souhaite une bonne soirée.
Ben, merci de nous avoir accueillis.
Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.